Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Guillaume.
Vous m'avez convoqué pour me dire que je suis le meilleur, c'est ça, comme tous les autres?
Alors justement.
Bon, alors écoute Guillaume, on va pas y aller par quatre chemins.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça baisse un peu ces derniers temps.
Pardon.
Le niveau de tes chroniques.
Mais tu dirais que tu te reposes sur tes lauriers.
Oh bah allons bon, on a autre chose.
Alors voilà, on veut bien te donner une dernière chance.
On va faire un petit essai, hein, histoire de voir si t'as toujours le niveau.
Attendez, moi je suis là tous les jours, je donne.
Ah, t'es là tous les jours, ok, mais enfin c'est pas un acquis non plus, hein, mon gars.
Ah ça c'est petit, c'est parce que j'ai osé vous critiquer, c'est ça?
Mais non, mais on trouve que c'est pas plus mal de parfois remettre ses chroniqueurs à l'épreuve, Charline.
On est une start-up. C'est le monde d'aujourd'hui, Guillaume, faut s'adapter.
Et conquérir un public plus large. Alors vas-y, essaye un peu, fais le mec de droite, voilà, marché de Levallois.
Non, attendez, vous allez vraiment me caster comme un vulgaire débutant là?
Mais oui, c'est facile, fais le mec de droite.
Oui. Oh là, bon, je peux vous faire au moins Edith l'esthéticienne si vous voulez.
Ouais, mais alors non, attends, Edith l'esthéticienne, mais avec un accent italien et une ambiance western.
Oh, allez. Vachement, alors. Mais qu'il y a trop de Roms en France.
Alors on va revenir aux fondamentaux. Hein. Guillaume, fais-nous un islamo-gauchiste écolo-vegan qui fait du micro-trottoir sur une radio publique.
Ça c'est moi, ça.
Ouais. Ah ben voilà, ça c'est pas mal. Bon, hein, tu sais quoi?
Allez, jeune homme, on vous rappellera. Bonjour la France Inter et bienvenue dans le quatrième épisode des vacances de l'Open Space. Nous avons noté deux réservations en demi-pension. La première pour le pianiste canadien Chilly Gonzalez, auquel nous avons soumis cette question. Dans une société de la performance, est-ce que le talent s'achète très cher? Attention, il y a un piège, parce que personne n'est encore parvenu à définir ce qu'est le talent. Vous entendrez Chilly Gonzalez nous proposer sa définition. La deuxième demi-pension, c'est pour le primatologue néerlandais Frans de Waal. Au moment où en France tout le monde se met sur la gueule, est-ce que le gouvernement est au point en matière de résolution des conflits? Les ministres auraient beaucoup à apprendre des bonobos, même s'ils résolvent les conflits.
Oui.
Avec le sexe.
C'est une méthode comme une autre.
Sans transition, alors,
voilà
c'est mieux. Alex Vizorek, mesdames, messieurs.
Mais comme nous ne sommes jamais en conflit, Charline, nous n'avons pas besoin de le résoudre. Vous voulez une belle équipe?
Oui.
Eh ben, j'en ai une. Chewbacca a sorti son instrument, le gramophone, bien évidemment, pour la chronique devant Chilly Gonzalez. Et puis, Guillaume Meurice nous parlera mobilier urbain intelligent, un thème très prometteur quand on connaît le bonhomme. On terminera avec Constance, qui décrète que les animaux sont des cons devant l'un des plus grands primatologues du monde, Frans de Waal. Et puis évidemment, cerise sur le gâteau, Frédéric Fromet nous chantera son amour du catéchisme sur des musiques de Vladimir Cosma.
Allez, on met tout ce petit monde dans un camping-car.
On est parti.
Et on prend la route.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Chilly Gonzalez, merci d'être avec nous.
Je vais m'asseoir sur le piano.
Ouais. Faites ce que vous voulez avec pendant cette heure-ci. Votre nouvel album, c'est Solo Piano 3. Vous qui aimez transgresser, Chilly Gonzalez, est-ce que ce troisième volet, ça veut dire que vous avez osé transgresser les deux premiers ou pas trop pour garder une cohérence?
Ben, j'essaie de trouver le sweet spot, comme on dit en anglais.
Le commun?
Le sweet spot.
C'est-à-dire?
Je sais pas,
l'endroit où
la
c'est
sucré. Je sais pas, comment la traduire exactement, mais oui, j'essaie de trouver quelque chose qui est familier pour les gens qui connaissent les premiers deux. C'est quand même une série de trois albums. Mm-hmm. Comme toutes les trilogies, il faut pas rater la fin. Il faut pas rajouter Andy Garcia pour faire Godfather 3, par exemple. J'ai essayé surtout de l'amener quelque part pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment fini. Mais de suivre des albums que les gens tiennent à cœur, c'est très dur pour moi. Normalement, j'ai le luxe de toujours faire des nouveaux projets, un projet de rap orchestré, un projet de musique de chambre, quoi que ça soit. Donc faire un troisième solo piano, je trouve ça terrifiant presque.
C'était très commercial au départ l'idée alors.
Ben, bizarrement, des albums de piano, chez moi, c'est ce qui marche le plus. C'est vrai que c'est contre-intuitif que c'est le cas, mais j'ai voulu vraiment arrêter la trilogie parce que c'est terrifiant d'imaginer de faire une quatrième.
Comment est-ce qu'on choisit la dernière note? Celle qui vient clore l'album, la trilogie, donc le whist, le dernier morceau.
C'est un mi bémol, hein,
15e,
je crois,
je sais pas.
Ah, c'est un do.
Ah, c'est un do, merde.
Tu t'aurais pu deviner encore 12 fois et à un moment tu l'avais sur le bon.
Alors, Chilly, chaque titre est dédié, on peut dire, à un artiste, est associé à un artiste. qui vous inspire ouais, le
un artiste ou un athlète. Oui. Il y a plein de figures
c'est
presque
artistiques. C'est vrai que je dis artiste,
oui.
Mais quelqu'un qui a un talent, on va en parler tout à l'heure. Oui, il y a aussi Nadia Comaneci, par exemple, Bernard Moitessier. Il y a un des Daft Punk, il y a Thomas Bangalter, par exemple. Quand il est dédié à un rappeur, ou à une compositrice de musique électro comme Wendy Carlos, on peut imaginer que vous avez cherché une adaptation. Donc avec le clavier.
Oui, des fois je cherche, oui, exactement, une espèce de traduction entre styles de musique au piano. Le piano permet de quelque part jouer tous les styles. Et des fois on a tendance de dire qu'un style de musique est lié à son instrument ou sa technologie, que le rap devrait avoir une boîte à rythme, par exemple. Mais moi, je crois que par exemple, on peut jouer du rap sur le piano ou avec une approche rap. Je vous donne un petit exemple.
Oui.
Là, par exemple, vous connaissez ce morceau de Dr. Dre et Snoop Dogg il y a à peu près 20 ans. Still Dre. Bon, si je jouais ça comme un pianiste classique, comme je devrais le faire, ouais, comme je suis pianiste avec un background classique, je le jouais dans un style romantique avec beaucoup de changements de tempo et avec beaucoup de variations dans la vélocité avec laquelle je tape les touches. Donc je ferais plus comme ça. Parce que ça, c'est le style. On dit que ça fait que la musique soit plus dramatique, plus humain. Ça, c'est l'idée romantique du 19e siècle.
Presque. Ça, c'est du Jean-François Zigel, ça.
Oui. Oui. Si moi, je joue avec une approche rap, c'est tout simplement que je joue plus comme un boîte à rythme. Qu'est-ce que c'est un boîte à rythme? Ben, c'est une machine où les vélocités sont toujours exactement pareilles, qui est un peu sous le tyrannie d'un métronome électronique, un idéal. Moi, je peux pas le faire avec ma bouche parce que finalement, je suis humain. Mais la plupart de musique électro, pop et rap, c'est fait avec un métronome digital qui détermine un peu que le rythme soit très constant. Donc en fait, j'essaie de me transformer en machine quand je joue Still Dre en rap. Donc c'est ce constance de chaque fois que je touche la touche, c'est censé être pareil que la touche d'avant et d'après. Je deviens la machine et quelque part, je réussis peut-être à faire quelque chose en espérant que c'est poétique d'essayer de devenir une machine et rater mon coup.
Il y a un morceau dédié à Jason Beck. Ça a l'air d'être une belle personne quand on écoute le morceau. C'est qui?
Ah, you're clever.
Elle est forte.
Je l'ai dédié à moi-même. Et la raison, c'est parce que ce titre est très important d'une manière émotionnelle, mais c'est tellement privé que j'ai pas envie d'expliquer ce que c'était qui m'est arrivé le 3 octobre, ce qui est le titre de la chanson. Ouais. Et en même temps, je veux que les gens sachent que le morceau est important, presque plus important que les autres. Donc je lui ai donné un titre banal, ce que je fais très rarement. Normalement, je fais des jeux de mots, plein de trucs, des images, des trucs qui aident l'auditeur à imaginer quelque chose. Cette fois, je me suis dit, je vais banaliser le titre et banaliser la dédicace à moi-même pour que les gens sachent que c'est le titre le plus personnel.
Et découvrez-le donc sur cet album Solo Piano 3 qui est déjà sorti. Chili, on va parler toujours musique avec Djoubaka.
Bah oui, allons-y. Hein. Il y a 14 ans quand sortait l'album, le premier de la trilogie de Solo Piano de Monsieur Chili González. Ses enregistrements, leur singularité ont vraiment fait le tour du monde. Et il a surtout, en dehors du fait que cette trilogie reste musicalement de premier ordre, tout le monde est d'accord, réussi à remettre le piano en dehors d'un circuit classique et jazz. Et au premier plan, en créant une partition qui était aussi populaire en fait qu'exigeante. Et le piano, c'est cet orchestre en miniature, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure, qui reste pour beaucoup en fait l'instrument de base de composition. Et avec l'avènement du rock, en fait, le pianiste est devenu plus un accompagnateur, quelqu'un qu'on mettait un peu de côté au fond du groupe, quoi. Et le fait de remettre le piano au milieu des radars, en fait, en solo, comme le nom de cette trilogie, avait vraiment à l'époque quelque chose d'étonnant. Ça n'existait pas. Voilà. Car en González, en 2004, on le connaissait parce qu'il faisait du rap, parce qu'il travaillait avec Fest, il était producteur, il travaillait avec Peaches, ou les Daft Punk déjà. Mais à l'époque de son piano solo, moi, au même moment, je commence à m'intéresser aux 78 tours et aux gramophones. Et je m'aperçois en fait de la place que tenait le piano en tant que star des instruments des années 10 aux années 40. À cette époque-là, les jazzmen empruntaient aux musiciens classiques, les musiciens de classiques allaient vers le jazz, comme Gershwin, et des ponts se créaient. Et surtout, le piano, c'était un instrument roi. Et puis derrière l'instrument, il y avait le musicien. Hein. Son jeu, l'intention qu'il donne, la façon dont il se tient face à cet instrument qu'on a devant nous et qui pèse plusieurs centaines de kilos. Et donc, pendant l'entre-deux-guerres, en fait, les enregistrements sources des disques, qu'on appelle les masters, avaient une durée de vie limitée. Et si le disque avait beaucoup de succès, l'artiste est obligé de réenregistrer sa version. Donc on a plusieurs versions d'un même auteur, d'un même compositeur, d'un même interprète pour un disque. Et donc là je vous ai ramené un petit gramophone à côté de moi et on va écouter une version un petit peu, hein, pas tout, hein, ouais, d'Errol Garner de Play Piano Play en 1947. Avec le doigt comme ça, ouais, comme sur un vieux gramophone.
C'est Adamier, c'est Louis Vuitton.
Et parce que, pourquoi je prends ce morceau d'Errol Garner? Parce que c'est un piano solo, justement. Il est tout seul derrière son piano.
Franchement, c'est cruel de mettre Errol Garner entre deux morceaux de moi. Non, mais c'est cruel, là, la comparaison, je souffre là.
C'est pas vrai. Et donc, avec Errol Garner, Fats Waller, en fait, il y a quelque chose qui me fait penser à Gonzalez parce qu'ils aiment rire. Garner, par exemple, joue avec le tabouret très très haut, avec les mains quasiment perpendiculaires au clavier. Et si en concert, en fait, le tabouret n'est pas haut, il se fait rajouter des annuaires et tout le monde le voit, en fait. Et Chili Gonzalez, pour moi, fait partie de cette famille qui, j'imagine, font 3 heures de piano par jour, un peu comme un entraînement très très sportif, mais qui, en même temps, ont le sens du recul, de la poésie absurde, et qui savent redonner au piano, en fait, son aspect spectaculaire, tout en étant totalement familier. Et ça, c'est très fort. Et quand monsieur arrive sur scène, il est en robe de chambre, façon royale au bar, et puis il s'approche de son piano comme un dompteur s'approche d'un fauve. Il y a cette filiation, en fait, du spectacle, le gars tout seul, au milieu de l'arène, et sur la pochette de Solo Piano 3, il y a 3 mains dessinées pour le chiffre, mais aussi parce que, pour moi, c'est un peu un mutant. Il y a une ambiguïté, et ce détail s'entend sur le disque. Certaines dissonances décrivent des moments vraiment ombrageux, mais comme tous les autres albums, il y a un happy end à la fin. Ça finit toujours bien chez Chili Gonzalez.
Sur un do, on se rappelle bien.
C'est un do, ouais, un do.
Et chaque morceau de ce disque est dédié à une personne, vous le disiez tout à l'heure, et j'affectionne, moi, particulièrement celui qui est dédié à Chico, des Marx Brothers, pianiste émérite, drôle, et aussi spectaculaire techniquement, qui semble un cousin vraiment pas si lointain de Chili Gonzalez. On écoute Chico, Chili?
Oui.
Live.
Parce que mon grand-père était mon premier prof. Et lui, c'était strict, style européen. Respect pour le compositeur. Et j'ai apprécié ça, mais quand j'ai vu Chico Marx jouer dans A Night at the Opera, je me suis dit, oh, lui, il a le respect pour son public. Et ça, c'est peut-être plus important.
Thank you.
Merci. On va alors aborder ce sujet avec vous. Eh bien, en arrivant à l'Élysée, le président de la République a dit qu'il voulait célébrer les talents. Alors, ok, mais c'est quoi le talent? Parce que, par exemple, dans les cabinets de conseil, le consulting, on organise des guerres de talents pour attirer et garder les meilleurs. C'est très performant, c'est performing. Alors, ça se trouve où le talent? En tout cas, pas sous le sabot d'un cheval.
Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent, à ce moment-là, dans l'instant, pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent.
C'est Jacques Brel, en 71.
On se moque de Jean-Claude Van Damme, mais il avait quand même un prédécesseur.
Est-ce que, Chili Gonzalez, vous êtes plus ou moins d'accord avec Jacques Brel sur cette notion du talent?
Ben, dans le sens où on peut pas juger le talent, c'est subjectif et il y a des talents pour se vendre, il y a des talents pour trouver quelque chose d'original, c'est deux talents très différents. Alors qu'est-ce qui réunit l'innovateur qui savent pas se vendre, qui va jamais vraiment pratiquer son art en public, et qu'est-ce qui réunit cette personne et la personne qui recombine des choses, qui est malin, qui a du charisme, qui peut persuader les gens à lui aider ou qu'est-ce qui réunit ces deux personnes-là? C'est l'obsession. Donc quelque part, c'est comme l'envie de manger de l'homard. Oui, c'est l'obsession. L'idée que on est tellement obsédé par quelque chose que ça devienne notre identité. Ça, c'est peut-être qu'on peut juger ça pour les gens, pour la musique ou les œuvres d'art qu'on aime et qu'on n'aime pas également. Donc,
on a du talent quand, à partir du moment où quelqu'un vous dit que vous en avez aussi. Comme vous dites, c'est subjectif, c'est dans l'œil de l'autre aussi, le talent.
Ben, on a un talent pour se montrer. Voilà, c'est deux talents très très différents. Je connais pas mal de musiciens et d'autres artistes qui n'ont pas le talent pour se vendre, qui n'inspirent pas confiance quand ils prennent des rendez-vous avec des gens qui pourraient les aider. Et c'est triste parce que ils ont le même talent que plein de gens qui sont très très connus. Le talent qui se reconnaît pas, est-ce que c'est le talent? C'est comme l'arbre qui tombe dans une forêt sans que quelqu'un l'entende. Ouais. C'est triste.
On a tendance à dire que le vrai talent, qu'il n'y a pas une Édith Piaf qui dort dans un karaoké de province, qu'on l'aurait croisé, qu'on l'aurait vu, que quelqu'un l'aurait emmené à devenir ce qu'elle est. Vous croyez ça, vous?
Bien sûr, il y a beaucoup de chance qui nous découvert. Moi, j'ai eu des rencontres dans ma carrière qui n'étaient pas forcément liées au fait que j'avais du talent. Mais j'étais dans le bon endroit au bon moment. Après, il faut en profiter, évidemment. Mais quand j'ai fait l'école de musique, j'étais étonné qu'il n'y avait qu'une douzaine de compositeurs qu'on discutait. Comment c'est possible que c'est en plus que des hommes blancs, que des hommes morts? C'est triste, ça. Je sais pas, quelque chose dans les domaines élitistes, les institutions, ils ont envie d'avoir quelque chose de consensuel, d'être tous d'accord sur quelque chose. Et ça, c'est un processus invisible, mais cruel, je crois. Surtout pour les gens qui ne savent pas se vendre. Ces gens-là... Ils ont vraiment un désavantage.
Vous écoutez France Inter par Jupiter et c'est Chili Gonzalez, notre invité. On va aborder ce dernier sujet avec vous. Pour apaiser les souffrances de certains malades, les médecins québécois peuvent prescrire des visites gratuites au musée. C'est le fruit d'un partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Montréal. Et pour vous, Chili Gonzalez, voici le musée qu'on vous propose sur ordonnance. Attention.
Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise. Avant tout, vous devez savoir que les premiers ateliers de pantoufles ont vu le jour dans notre belle région de Charente entre 1880 et 1910.
Nos jours heureux, le film de Nakache et Toledano. Parce que pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et je doute pas qu'il en existe peut-être un en France, dans la Creuse ou je ne sais où. La Creuse qui est toujours stigmatisée. Hein,
oui, c'est vrai. Oui, c'est pas très gentil.
C'est vrai, c'est
hashtag
vrai.
Hashtag je suis Creuse.
Peut-être c'est à Chili Mazarin.
Ah wow voilà.
Ça, c'est beau.
D'ailleurs, vous avez mis vos pantoufles d'ailleurs là, Chili?
Oui, bien sûr.
Bah, bien sûr, évidemment. C'est pas possible de jouer du piano
les pédales. Sans
les... Ouais, mais voilà.
C'est bizarre de jouer sans chaussures, sans souliers, comme
ouais,
on dit au Québec.
Bien sûr.
Par contre, avec un vrai dress shoe, comme on dit, c'est impossible aussi parce qu'on ne sent rien. Donc les pantoufles, c'est le bon milieu.
Ah ouais, d'accord, on a enfin l'explication. Ce serait efficace pour vous en cas de surchauffe, une prescription médicale, d'aller au musée? C'est une idée qui vient du Québec, on en rêverait nous en fait.
Je crois que les gens au Canada, ils ont moins l'habitude d'aller au musée que les Français, déjà.
Ouais.
Moi, je n'ai pas été exposé à ça beaucoup, même à l'école, même dans la culture de mes parents. C'est un pays jeune, on n'a pas vraiment une culture qui dure longtemps, des siècles et des siècles. On a un peu un complexe d'infériorité même. Donc, je ne sais pas, il y a un truc un peu anti-intellectuel peut-être au Canada de temps en temps. Par contre, maintenant, le cannabis est légal.
Ah oui, okay.
Donc imagine fumer un joint et après aller au musée, ça c'est pas mal.
Alors ça c'est bien, ça c'est vrai que c'est les deux combinés.
Et c'est dans quel contexte? C'est-à-dire que c'est quand on a
c'est
quoi
un,
qu'on
c'est
peut
un
prescrire
ça? Alors ça, j'ai pas, les détails
pour,
sont pas donnés.
Pour les obèses, il faut aller voir Giacometti. Ou c'est quoi le...
C'est un partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Montréal. Bon, en cas de surstress,
pour
apaiser,
se
puis
se bah,
tout type de maladie, en fait.
Ouais, vous pouvez, c'est ma question.
Ça, c'est,
et on a le droit de partir de où on travaille pour un après-midi et
voilà,
justifier exactement. En disant que
ouais,
c'est bien, ça.
J'ai la recette, ouais. Tout ça, j'ai la prescription.
Il en a une. L'art pictural, il vous inspire, Chili Gonzalez. Vous expliquez que, voilà, bah, peut-être au Québec, on a moins l'habitude de fréquenter les musées, mais j'imagine que vous l'avez fait, que vous avez ce goût.
Même moi, je préfère quand je tombe sur une œuvre d'art un peu au milieu de la rue, franchement.
Ah, ouais.
Et quelque chose dans l'attente, quand on rentre dans un musée, on attend quelque chose de subversif. Et donc, il y a moins de pouvoir parce qu'on attend d'être surpris, on attend d'être inspiré, on attend tous les faits qu'il peut avoir. J'étais à Londres il n'y a pas longtemps et j'étais à Hyde Park. Et j'ai tourné un coin et il y avait un pyramide géant fait de barrels. Comment on dit barrel? Fute ou
des barils?
Des barils, oui.
Des tonneaux, ouais.
Ouais, voilà. En multicolore, c'est un pyramide géant au milieu du lac Serpentine à Hyde Park à Londres. Et ça m'a surpris. J'ai pris un bateau, je suis allé toucher l'œuvre d'art. Et cette expérience, j'ai trouvé beaucoup plus inattendue. Et donc, il y avait beaucoup plus de pouvoir pour moi que d'être dans un musée où je sais un peu ce que j'attends. Et donc, ça va toujours être plus faible.
Un truc auquel vous vous attendiez peut-être pas, c'est de jouer dans un sketch avec nous, si vous êtes d'accord, Chili Gonzalez.
Mais oui, on s'est dit, donc tous les jours, on propose un sketch à l'invité, on lui donne un texte, mais on s'est dit, comme c'est vous, peut-être c'est bien que vous accompagniez le sketch au piano. Donc, on a noté les types d'ambiance qu'on souhaitait pour décorer ce sketch où on est à une conférence de presse de Donald Trump.
Ah, je reprends ma thème de nouvelles, alors.
Au début, on peut faire ça, mais après, on se lance. Et puis, en fonction des journalistes et des médias qui interrogent, on y va tout de suite. Vous êtes Donald Trump, Guillaume Meurice.
Ok, bienvenue dans cette conférence de presse. Je vous écoute pour vos questions.
Oui, Kelly Bradford, Fox News. Alors, votre mandat est une véritable réussite. Mm-hmm. Comment allez-vous brillamment mettre fin au conflit qui vous oppose à ces chiennes de féministes qui gangrènent notre beau pays?
Mais les féministes sont très dangereuses. À cause d'elles, on ne peut plus siffler les femmes, nous approcher d'elles, ni même les attraper par la chatte.
Pas toutes, hein? Oups, pardon,
okay.
Pardon.
Next question.
Oui, Jen Richards, CNN.
Je n'ai pas bien entendu.
Jen Richards, CNN.
Fake news, fake news.
Je n'ai encore rien dit.
Oh, pardon, réflexe.
Alors, je voulais vous demander.
Non, ne me demandez rien du tout.
C'est conférence de presse,
monsieur. Vous êtes la honte des journalistes.
Mais enfin...
You are fired. Next question.
Oui, bonjour, Pascal Pro de 16 News.
Oh là là, non, les Français sont stupides.
Ah non, je voulais savoir comment vous êtes arrivé à éradiquer les terroristes islamistes chez vous.
Ah, vous voulez dire les musulmans?
C'est ça, les arabes.
Eh bien, en fermant les frontières, en construisant des murs, en donnant des armes à feu à tout le monde.
Même dans nos écoles?
Surtout les écoles. Next question.
Bonjour, Élise Funette, de 30 millions d'amis. Alors, nous faisons un dossier spécial chihuahua.
Ah, les saletés de chiens mexicains.
Ah, vous n'êtes pas trop chihuahua, vous êtes plutôt husky peut-être?
Encore pire, je n'aime pas les chiens de ces caribous.
Wow, really?
De quoi?
Caribous?
Non, c'est pour le sketch.
Non, pardon, mais
C'est pas ce qu'on pense.
Non, c'est un truc, c'est un stéréotype des Canadiens, des Québécois.
Non, c'était une blague.
Mais caribou, déjà, ça n'existe pas.
Ah. Okay.
It's called a moose.
Ouais.
Okay.
Non.
It's a
non,
fucking
ouais.
moose.
Non,
il n'y a pas de caribou au Canada.
De toute façon, je veux dire, Chili avec Alex, on est belge, on est bouffeurs de frites, pas de grenouilles.
On est Québécois.
Nous, on vous aime beaucoup.
Vous savez, vous avez un vrai rôle pour tous les invités, là, sauf que moi. Là, le pianiste joue du piano. Play the piano. Shut up and play the piano. C'est ça, non?
Vous voyez avec Alex, parce que c'est lui qui écrit.
Franchement, les gens ont raison. Les Québécois sont beaucoup plus sympas que les Canadiens.
À l'heure qu'il est, Guillaume n'embête pas de gens, normalement.
Oui, alors ça, c'est vous qui le dites. Voilà. Il n'est pas payé pour les embêter.
Oui, c'est ça. On va dire ça. Peut-être que là, on peut réécouter des fois où il a embêté les gens, et c'est comme s'il les réembêtait, mais pas en vrai, quoi.
Voilà, et il les avait bien embêtés parce que ça parlait mobilier urbain intelligent.
Oh là là.
Mais je vais vous parler du froid qui débarque avec ses joies et ses peines, hein, les joies des duplex sur le bord des routes, avec les héritiers d'Albert Londres qui deviennent Evelyne Delia. C'est aussi la saison de la déprime, hein, on sait que les gens se suicident davantage en cette période, notamment en se jetant du haut de la playlist France Inter. La saison également des morts dans la rue, hein, ils meurent plus l'été, mais on en parle davantage l'hiver. C'est comme ça, il y a des modes, hein, c'est les saisons, c'est comme les champignons. Et c'est donc la saison des astuces pour éloigner les SDF des centres-villes, parce qu'on va mettre le marché de Noël. Et vomir du vin chaud, c'est déjà pas très agréable, mais vomir sur un SDF, c'est carrément pas Charlie. Donc, des ingénieurs ont créé tout un ensemble d'installations pour empêcher les SDF de rester. Moi, je suis allé au congrès des maires et il y a plein de stands qui en proposent. On commence par un premier.
Chacun fait ce qu'il veut et nous, on s'adapte, mais on ne fait pas la promotion de ça.
Mais vous en vendez quand même.
Quand un maire nous dit « je veux ça », oui, on vend ce qu'il veut. Hein, on a.
Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer ?
C'est pour ça que moi, ça n'est pas ça dont je fais la promotion.
Voilà, c'est vrai, il n'y a pas de grande promo sur le mobilier anti-SDF. J'ai pas vu de catalogue avec marqué moins 50% sur les pics à pigeons anti-SDF. Banc spécial, chômeur en fin de droit, prix à débattre, il n'y a pas ça. Mais si vous demandez poliment, tout est possible. Le problème, c'est simplement de l'assumer. Alors j'en ai repéré un de ces fameux bancs avec un accoudoir en plein milieu, comme on en voit de plus en plus. Oui. Est-ce que le fournisseur est donc un fabricant de mobilier anti-SDF ?
On n'a pas mis le pied dedans encore, mais c'est vrai que j'ai vu effectivement certains de nos concurrents qui s'arrangent pour faire des bancs de ce type-là, ou avec un accoudoir central pour que...
Ah bah, vous n'avez pas mis le pied dedans, mais vous avez quand même un banc.
On l'avait déjà, c'est un modèle vis-à-vis, il y a un accoudoir central.
Vous l'aviez avant qu'il y ait des SDF ?
Oui, avant qu'il y ait cette polémique.
Voilà, il l'avait construit avant la polémique. Donc ça va, à l'époque, c'est vrai que la chasse aux SDF était à la mode. C'est pas comme aujourd'hui, on a toujours une gauchiasse qui vient vous emmerder. Avant, on était peinard, mais je vous parle d'un temps que les moins de 50 KE par mois ne peuvent pas connaître. Alors, il y a plus subtil, la nouvelle mode, ce sont les structures assis debout.
C'est-à-dire que vous pouvez vous reposer les fesses sans vous asseoir et être prêt à partir dès que votre train ou votre bus arrive.
Ah mais du coup, on ne peut pas squatter très longtemps dessus.
Ah non, voilà, effectivement, on ne peut pas s'allonger dessus, on reste en position assise, sans dossier, donc on n'y reste que le temps d'attendre son moyen de locomotion.
Et est-ce que ça, ce n'est pas un problème ?
Non, pas du tout. Pour les SDF, peut-être, mais je n'en sais rien.
Ah ben pour les SDF, ouais, ils ne peuvent pas s'allonger du coup.
Ah voilà, exactement, oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas fait pour. C'est compliqué, on l'utilise comme on veut.
Voilà, c'est pas facile. Hein. C'est pas fait pour rester dessus. Bon, heureusement que ça n'existait pas du temps de Brassens. Les amoureux qui se bécotent sur les assis debout, hein, ils auraient fini chez l'ostéo. Autre astuce que vous pouvez voir fleurir dans le mobilier urbain, des chaises. Ça, c'est à la mode aussi, des chaises individuelles avec des petits accoudoirs, des dossiers bien pourris. Belle astuce.
C'est vrai qu'on ne peut pas s'allonger sur une chaise. C'est plutôt pour que les gens ne s'allongent pas, plutôt que de chasser des gens.
Oui, mais est-ce que ça revient pas au même ?
C'est peut-être qu'ils n'ont pas envie que les gens s'allongent.
Et ben voilà, c'est ça.
Mais est-ce que l'espace urbain, il est fait pour que les gens s'allongent ?
Ah voilà, bien sûr, mais ça, les SDF, ils pigent pas. Hein, c'est des gens qui n'ont pas les codes. Et on a un ministre du logement qui fait rien pour les éduquer. Julien de Normandie, il est tellement pénible que les gens se pendent avec leur taxe d'habitation quand ils le voient. C'est d'ailleurs paradoxal d'avoir une tête de constipé et de faire chier autant de monde. Bon, pour l'instant, on est quand même sur une démarche de créer du mobilier urbain moche et désagréable, pour bien qu'on n'ait pas envie de rester assis dessus. Plus de 500 morts par an dans la rue de France, hein, alors que Macron avait promis que tout le monde serait logé. Quand on va devoir expliquer à nos gosses que pendant que la planète crame, on a laissé les pauvres crever dans le froid, ça va être chaud. You never need your American, you never take what you say seriously. You're on the bed, you're on the ledge of things you've got in mind. For your mind, objective, goal, and collective.
étions Cat Power in your face, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, par exemple, dans ton visage, mais de manière un petit peu plus vulgaire.
Mais dites-en ta gueule pendant le disque. Hein.
Oui, mais les... oui, mais les enfants
les gens
écoutent.
Ont le droit de savoir.
Les enfants écoutent.
On quitte un pianiste canadien pour retrouver un primatologue des Pays-Bas.
Exactement. Le magazine Times l'avait classé dans les 100 personnalités les plus importantes du monde.
Ouais, ouais.
Il est venu chez nous.
C'est dingue.
Oui, c'est pas possible.
Franz de Waal.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue, Franz de Waal, dans cette émission. Vous publiez La dernière étreinte, le monde caché des émotions animales. C'est paru aux éditions Les liens qui libèrent. Je vais laisser Guillaume entamer le sujet. Car il est passionné, il est fan de vous.
Moi, ça m'a passionné. Vous parlez d'émotions, des émotions chez les animaux, ce qui est un peu révolutionnaire dans le milieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, d'abord, c'est une petite révolution ?
C'était pas révolutionnaire. Et quand Darwin a écrit 100 et 50 ans, c'était complètement acceptable de parler des émotions des animaux. Mais c'est depuis le siècle dernier que Skinner voulait pas parler de ça. Il disait pas que les animaux avaient pas des émotions, mais il disait qu'ils étaient pas importants. Même pour les gens, ils étaient pas importants. Alors là, on a eu une période très sombre où il y avait rien et un tabou sur les émotions. Maintenant, il y a toutes sortes de jeunes scientifiques qui parlent encore, comme moi, qui parlent des émotions animales.
Alors on parle des émotions animales, pourquoi ça fait un peu controverse ? Parce que d'habitude, on n'en parle que pour les humains. Est-ce qu'on peut développer, par exemple, une relation d'amitié avec son chien ? Constance, aujourd'hui, est venue en studio avec son chien. Est-ce qu'elle peut développer une relation amicale avec son chien ? Est-ce qu'on peut parler de...
Je crois que oui, bien sûr. La raison que les gens, ils ont des chats et des chiens, ce sont des mammifères, sont des animaux avec empathie, qui ressentent nos émotions et nous ressentent leurs émotions. Et moi, j'ai beaucoup de poissons, ils donnent pas beaucoup d'empathie.
oui, voilà.
Il y a certains animaux
qui... Ça dépend des animaux, voilà, les huîtres.
Il y a certains animaux, oui. Il y a certains animaux qui donnent pas tellement de ça.
Comment on pourrait expliquer, par exemple, à quelqu'un comme Alex, qui ne ressent pas ça, le lien qu'on peut avoir avec un animal, c'est-à-dire, il ne fait pas la différence entre un animal et une table basse. Comment on peut le convaincre que ça existe?
Il exagère un peu, mais moi...
Oui.
C'est vrai que quand je vais dans un bel aquarium comme à La Rochelle, je regarde et je me dis, tiens, dans mon assiette, ça serait super.
Voilà.
Et c'est vrai que c'est une réaction, effectivement, de...
Ouais,
d'omnivore, c'est pas bien.
Attitude presque française, ça.
Oui. Je m'intègre.
Tu es belge. Non, pour moi, tous les animaux qui ont des cerveaux, pas les huîtres, mais tous les animaux qui ont des cerveaux, ils ont des sentiments et ils ont des émotions. Mais bien sûr, les animaux les plus proches de nous, comme les chimpanzés, le bonobo, tout ça, c'est beaucoup plus facile pour nous à comprendre quel genre d'émotions ils ont. Et c'est très dur à comprendre un octopus. Un octopus a un grand cerveau et est très intelligent, mais c'est dur pour nous à comprendre et d'anthropomorphiser l'octopus.
Et à communiquer avec.
Ouais, ça dépend s'il remue toutes ses tentacules ou une seule.
Ça dépend s'il donne les scores des matchs de foot. Vous parlez dans le livre du rire, ce qui a longtemps fait débat. On parlait, on disait le rire est le propre de l'homme. Et vous dites que non. Vous dites que les primates font des blagues. Est-ce que vous pouvez nous décrire une blague de primate ?
Par exemple. D'abord, les chimpanzés et les bonobos, ils ont un rire. Et si on les chatouille, un bébé chimpanzé, par exemple, il fait des bruits comme... ça le rire. On a eu des situations où ils utilisent cette expression de rire quand ils sont surpris par quelque chose. Et ça donne l'impression qu'ils sont amusés. Par exemple, à le zoo de Arnhem, un jour, il y avait un homme qui avait mis un masque de panthère sur son visage. Et il s'est caché dans le buisson autour de l'enclos des chimpanzés. Et il se montrait plusieurs fois. Et les chimpanzés étaient furieux. Ils étaient très en colère. Ils ont jeté toutes sortes de choses vers lui. Et à un certain moment, il a enlevé le masque. Et là, tous les chimpanzés se sont calmés, mais la plus vieille femelle, Mama, qui joue aussi un rôle dans le livre, elle avait ce visage de rire, comme si elle trouvait ça quand même amusant, qu'est-ce qui se passait. Oui, je crois qu'ils ont un sens d'humour. Oui.
Franz de Waal, votre livre s'appelle « La dernière étreinte » et elle s'ouvre sur un chapitre où on ne peut pas ne pas être ému et accroché. C'est-à-dire qu'il y a un grand primatologue avec lequel vous avez travaillé ou étudié, qui vous a enseigné, et qui va au chevet
d'un grand singe, c'est Mama justement, oui. qui est en train de mourir. Il la connaît depuis 40 ans, ils se connaissent depuis 40 ans. Exceptionnellement, il rentre dans sa cage, il va à son chevet, et c'est presque une scène de film que vous décrivez. C'est l'ouverture
oui,
du livre.
Oui, mais on peut voir ça sur l'internet. Il y a un petit vidéo de, si on cherche pour Mama et Jan van Hoff, parce qu'il s'appelle van Hoff, on trouverait cette petite vidéo où il entre dans la cage de nuit de Mama qui est en train de mourir. Elle avait 59 ans. Et normalement, on va jamais dans une cage avec un chimpanzé adulte parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils sont potentiellement très dangereux. Mais lui, il connaissait Mama depuis 40 ans. Il l'avait affaiblie. Elle était très faible. Et c'est drôle parce qu'il a entré et sans doute Mama a senti que lui, il était nerveux d'entrer comme ça. Et c'est elle qui a calmé le professeur parce qu'il était sans doute un peu nerveux. Elle tapait sur son dos comme ça. Et oui, c'est une scène très émouvante. Ouais. Et c'était une semaine avant qu'elle meure, oui.
Et quand vous racontez cela, on est très accrochés. On a envie d'aller plus loin dans la connaissance des émotions pour envers les animaux. Ça s'appelle La dernière étreinte, le monde caché des émotions animales. C'est le livre de Franz De Waal qui est avec nous. C'est quand même l'une des 100 personnalités les plus influentes de la planète.
Oui. Franz De Waal. Alex est 44e, je crois, du classement. Ça relativise un petit peu.
Est avec nous. Alors, on va aborder ce sujet très franco-français, mais on va ensuite l'analyser par votre prisme de primatologue Franz De Waal. Le pays est en colère. Franz, ça arrive souvent en France, ça on ne vous le cache pas. Quand c'est pas les gilets jaunes, alors on vous a informé juste avant l'émission de ce que c'était les gilets jaunes au rond-point, ce sont les maires de France, en congrès aujourd'hui qu'on vient de parler Guillaume, les infirmières descendues aujourd'hui dans la rue aussi, le conflit est partout, tout le temps, au carrefour, sur nos écrans de télé. Est-ce qu'on espère encore que quelqu'un trouve comment le résoudre à la fin ?
Mais quel blaireau, c'est là.
Quoi, quel blaireau? Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Mais pourquoi tu te sens obligé de parler à chaque
fois que
j'ai un
truc? Parce que tu dis de la merde.
Mais quoi, je dis de la merde? Stop!
C'est une bonne idée!
Stop! Là, maintenant, vous allez faire une trêve. Il y en a marre. Vous allez vous serrer la main. Mais ouais. Vous allez vous serrer la main maintenant. J'attends. Vous allez vous serrer la main, putain. Allez-y.
Vas-y.
Je suis pas convaincu, là, ça peut être mieux, hein.
Non, mais ça va, là.
Je lui ai déjà serré la main, ça va, c'est bon.
Revenez ici.
Non.
Un extrait du Sens de la fête, le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Franz De Waal, vous êtes aussi spécialiste de du conflit chez les primates et de la résolution des conflits. Bon, admettons, le bonobo gilet jaune, celui qui n'est pas content, qui est prêt à bloquer l'allée de son zoo, il manifeste comment son mécontentement et est-ce que éventuellement il émet un cri que vous pouvez nous imiter ou...
Non, je ne vais pas imiter, mais les bonobos, ils résolvent les conflits sexuellement. Hein. C'est peut-être c'est ça la solution ici. Ouais.
Ah, c'est-à-dire l'humain peut s'en inspirer, vous voulez dire?
Oui, parce qu'ils ont de petits contacts sexuels qui ne sont pas longs, mais qui servent à résoudre des conflits.
Est-ce que ça sous-tend que chaque conflit... Il y a une tension sexuelle dans chaque conflit. Et donc c'est ça qui la solutionne.
Le sexe est après.
Mais oui, Mélenchon et le type qui perquisitionne, il y a une tension.
Moi, je pense qu'avoir plus de bonhommes, c'est une solution pour toute Paris, parce que, par exemple, pour dormir, un bonhomme peut dormir sur une branche. Il se met sur la branche, et comme ça...
Pas de branche anti-bonhomme.
Oui, comme ça, il peut, pour eux, ce serait confortable, en fait, les sièges qui ne sont pas confortables.
Les primates, ils ressentent l'injustice?
Oui,
on parle des émotions.
On fait des expériences avec des primates où on donne une récompense beaucoup mieux que l'autre. Normalement, ils veulent bien travailler pour, par exemple, des morceaux de concombre. Ils veulent bien travailler 25 fois. Mais si un reçoit le concombre et l'autre reçoit des raisins qui sont tellement mieux, celui-ci qui reçoit le concombre ne veut plus travailler. Oui, on fait ce genre des expériences qui montrent qu'ils ont un sens de justice.
Et ça se matérialise comment, du coup? Est-ce qu'il refuse de travailler ou est-ce qu'il en veut à celui...
Il refuse de travailler, il refuse même de manger le concombre.
Ah oui, ah, donc il y a une sorte de grève.
Mais avec les chimpanzés, on a fait ça avec des singes capucins qui sont petits. Les chimpanzés qui sont beaucoup plus intelligents, ils sont plus comme nous. Celui-ci qui reçoit le raisin va refuser le raisin jusqu'à l'autre reçoit aussi un raisin. Alors ça c'est très près de ce qu'on a pour, comme sens de justice.
Guillaume, vous vouliez poser une question à Frans de Waal parce qu'il y a un aspect qui vous a interpellé dans son livre.
J'ai appris qu'il y avait des meurtres chez les primates. Oui, oui. Alors ça m'a un peu attristé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Chez les chimpanzés. Mm-hmm. Pas chez les bonobos. Il n'y a aucune observation d'un bonobo qui tue un autre bonobo. Mais les chimpanzés, dans la nature et en captivité, c'est souvent des questions de pouvoir.
Et c'est carrément prémédité, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire de deux singes qui s'en prennent à un autre.
Oui, ça a l'air prémédité. Mm. Dans la nature, c'est souvent entre groupes, c'est territorial, c'est le mâle d'un groupe qui tue le mâle d'un autre groupe. Mais en captivité, ça peut aussi s'arriver dans le groupe. Et c'est souvent des questions de pouvoir. C'est un mâle qui est devenu dominant, mais qui n'a pas compté sur l'alliance de deux autres. Et c'est comme ça que ça arrive. Oui.
Il arrive aussi que quand des hommes se bagarrent, on les traite de primates. C'est insultant pour les primates.
Oui, qu'on compare des politiciens avec des primates. Moi, je n'aime pas du tout ça. Moi, je trouve ça pas grave pour les hommes, là, mais je trouve ça grave pour les primates.
Bah oui.
Parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que ça. Oui.
Frans de Waal avec nous. Et à côté de vous, il y a Constance et son chien Raoul qui est sur la moquette, tranquillou.
Les animaux sont des cons. Eh ouais, parce que on dit qu'ils sont bêtes parce que c'est pour ça qu'on les appelle des bêtes. Ils ont rien inventé les animaux. Ah ouais, nous on a inventé les tickets restaurants, le tout à l'égout, les supermarchés, et eux rien. Ils ont pas d'argent les animaux. Non, c'est des clochards. Comment ils font pour acheter des bouquins? Ah ben non, ils savent pas lire, ils ont pas inventé l'école. Ah ouais, ben ils sont nuls. Ils ont pas de religion les animaux. Ben non, parce qu'ils ont pas d'imagination. Et fallait bien y penser à clouer un mec sur une croix. Ah ben ouais, ben ils ont pas d'idée. Ah les boules les animaux, ils comprennent rien à l'art les animaux. T'as déjà vu un dauphin se faire tatouer un humain sur la nageoire? Eh ben non, parce qu'ils ont aucun sens de l'esthétique. Ils sont cons les dauphins. Ils préfèrent bouffer du plastique dans la mer et se laisser crever de chagrin dans des parcs aquatiques. Et les ours polaires? Ah, il faut que se plaignent les ours polaires. Et qu'est-ce qu'il faut concrètement pour agir contre la fonte des glaces? Hein? C'est compliqué d'aller chez Darty, acheter un congélo qui fabrique des glaçons? Ah ben non, forcément, ils n'ont pas inventé la voiture ni l'avion. Ah ben c'est bien beau de se plaindre. Et encore faut-il justifier de la place dans la société et du monde de l'entreprise. Mais évidemment, les animaux ils comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas d'ambition les animaux. Eh non, ils n'ont même pas la politesse de porter du vêtement les animaux. Ils se baladent à poil. Nous au moins on a la décence de les dépecer pour nous faire des fringues ou des chaussures sympas. Attends, on dit malin comme un singe. Attends, et s'il était vraiment malin, l'orang-outan, hein, il y a longtemps qu'il aurait fait un procès à Nutella. Hein. T'as déjà vu un orang-outan chercher un avocat? Moi, je l'ai pas. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Personne l'a vu. Eh ben non. Pourquoi? Parce que nous, on est des humains. Eh ouais, et on est évolués. Et eux, bah c'est des animaux, et ils stagnent. Ils sont nuls. Parce qu'il se passe que nous, au début, on était des fruits de mer, et puis après, on est devenus des varans, et puis après, des singes, et maintenant, on est des humains, et ça s'appelle l'évolution. Et les animaux, eux, bah, c'est toujours des animaux. Voilà. Et nous, avant, ils nous mangeaient les animaux, parce qu'on était fragiles, on avait peur de sortir de notre grotte. Puis un matin, on en a eu marre, alors on a inventé les couteaux qui coupent, les CRS et la bombe atomique. Et du coup, maintenant, c'est nous qu'on les mange, les animaux. On achète des gros barbecues à Leroy Merlin, et on fait des saucisses avec les animaux. Nous, les animaux, on les torture, on les exploite, on les tue, parce que c'est nous les plus forts, et la terre, elle est plus qu'à nous qu'à eux, parce que nous, on a inventé la propriété, les notaires. Et surtout, parce que nous, on est des gens sensibles, on a des sentiments, on a de l'empathie et des assurances vie. Et eux, c'est que des sauvages.
Constance, et votre chien n'a pas aboyé.
Oui, non.
Il dort.
Il est content.
Il a l'habitude.
Tout ça, oui.
Une réaction, Frans de Waal, c'est ce que vous essayez de battre en brèche, ce discours-là.
Oui, c'est insultant, ça. C'est incroyable. Mais le chien n'a rien fait.
Non.
Le chien n'a pas aboyé.
Bon, il a l'habitude, il vit avec elle, donc oui, il vit avec Constance.
Oui.
Donc,
vous disiez tout à l'heure... Par rapport au fait que vous n'êtes pas végétarien, vous?
Non.
Et parce que les non-végétariens aujourd'hui sont un peu parfois stigmatisés par les végétariens qui leur disent qu'on n'aime pas les animaux. Mais on ne peut pas vous reprocher de ne pas aimer les animaux. Quel est votre...
Non, pour moi, le problème moral, ce n'est pas le manger des animaux, mais c'est comment on traite les animaux. Mmh. On ne les traite pas bien, ça c'est sûr. Et il faut qu'on change ça. Et... manger des animaux, on a toujours fait, notre espèce, je crois. Et moi, je suis pas contre ça. Mais autrefois, bien sûr, on chassait, on mangeait des animaux qui vivaient dans la nature. Mm-hmm. On a tout changé quand on est venu de faire, comment l'agriculture a tout changé. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est le problème comment on traite les animaux avant qu'ils soient mangés. Oui.
Ouais. Franz De Waal, on a un petit sketch à vous proposer, si vous êtes d'accord.
En fin d'émission, on propose un texte à l'invité qui joue avec nous. Vous allez visiter le zoo. Vous êtes Franz De Waal, vous visitez un zoo en France et on fait tous un peu les animaux. On y va.
Regarde, c'est Monsieur De Waal.
Oh oui, là je tombe en boue.
Ah tiens, des pandas.
Les pandas, mais n'importe quoi, quel panda. Moi je suis Yuan Meng.
Mais arrête de te la péter, les Chinois, on est discrets, nous, ok?
Mais calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a?
Ben moi, ma marraine, c'est Brigitte Macron.
Oh là là, il frime, il a même cru qu'elle allait devenir ministre de l'Environnement, lui.
Ah, pourquoi ça n'a pas marché?
Trop de charisme.
Excusez-le, sa tête passe même plus entre les barreaux. Alors.
Macron, tu nous bananes.
C'est un barrage tenu par les primates.
Oui, on a le mouvement des gibbons jaunes. On est opposé à la hausse de la fiscalité sur les fruits exotiques.
C'est fascinant, ça.
Et n'oubliez pas de mettre une peau de banane sur votre pare-brise pour soutenir le mouvement.
Oui, merci. Il y a une manifestation.
Faut en colère, il y en a marre de la galère.
Et quelles sont vos revendications?
Nous, les phoques, on en a marre d'être systématiquement victimes d'homophobie.
Homophobie?
Ouais, fuck l'homophobie, fuck la xénophobie, fuck la phocophobie.
C'est important l'engagement chez les animaux.
Viens ici, je te veux.
Ah tiens, un bonobo, le plus empathique des primates.
Salut, tu viens avec moi dans la cage?
Non.
Eh bien, viens, ça va pas durer longtemps.
Vous n'avez pas de femelle?
Mâle, femelle, je m'en fous, hein. S'il faut, je peux être pédé comme un...
Oh, laisse-nous tranquille.
Ok, ça va, je vais me rabattre sur une tige de bambou.
Non, pas ma tige de bambou, hein.
Mais arrête, tout ne t'appartient pas comme
Lâche ça, sinon je le dis à Brigitte, on va te perquisitionner ton enclos.
Tiens, très bien, je me casse, je suis excité.
Tu restes ici, allez où ta banane sur le pare-brise.
Tu veux voir ma banane?
Godverdomme. C'est frais, français comme zoo.
Terminons cette émission avec un instrument et un bel organe.
Oui, peut-être juste un petit message. Si Vladimir Kosma nous écoute, qu'il se précipite sur ses boules qui est, car Frédéric Fromet voulait lui rendre un hommage. Bon, y est-il arrivé? On écoute.
J'ai reçu l'amour au catéchisme. J'ai mal au cul, mais c'est au nom du Christ que le curé m'a dit, viens mon petit gars, ce sera notre secret, te retourne pas, c'est pas mon doigt. J'ai reçu l'amour au presbytère, j'étais tout nu, mais pourquoi faire mon père? Allons, mon fils, tu joues le rôle d'Adam. C'est au chapitre 10, Adam se fait prendre sauvagement. Église, with my pédophilie, faut bien tromper l'ennui dans la sacristie. Déjà qu'il faut se coltiner des histoires à la con, on sait bien que Dieu sait bidon. Église, with my pédophilie, il faut bien s'amuser dans l'évêché. On va pas se taper, merci bien, des grenouilles de bénitier, des Christine Boutin, pitié. Le cureton avec une robe noire et des bijoux, c'est quand même un petit peu bizarre. S'il vous dit qu'il est venu en scout, peut-être qu'il s'agit pas d'un scooter mais d'un vrai scout. Le père prenait sous la soutane, n'avait pas honte de bander comme un âne. On l'aurait même vu au JMJ faire le signe de croix avec son zizi. Le cureton avec une robe noire aime les enfants qui sur ses genoux viennent s'asseoir. Enfant de cœur, ouais ouais c'est ça mon cul, il vaudrait mieux dire d'ailleurs des enfants de cul. L'église étant une vraie mafia, nous pouvons compter sur l'omerta. Rien sur rien entendu ni rien vu, chez les cathos on aime bien le petit Jésus. Église with my pédophilie.
Ainsi s'achève ce quatrième épisode des vacances de l'Open Space.
C'est vraiment bien.
Ouais. Et demain, un cinquième dernier épisode. On aura la fin de l'histoire.
Qui sera là?
Qui sera écrite par le journaliste François Saltiel, qu'on retrouve souvent le soir dans 28 minutes.
Exact.
Et l'auteur de bande dessinée Catherine Meurice.
Très bien, à demain.